Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
Il est devenu un sujet d'actualité, une nécessité, un élément incontournable. Vous avez sûrement entendu parler des ODD, Objectifs de Développement Durable. D'ailleurs, 193 pays se sont fixés d'atteindre 17 objectifs d'ici 2030. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohamed VI, le Maroc est sur cette dynamique à la fois environnementale et économique. Notion qui définit le besoin de transition et de changement dont a besoin notre planète et ses habitants pour vivre dans un monde plus équitable, en bonne santé et en respectant l'environnement. Quel impact géopolitique, stratégique, économique et même social le développement durable a sur notre quotidien et sur l'évolution du monde.
Mehdi 1, Ababacar Tonkara, le podcast de la durabilité.
Bienvenue encore, chers amis, dans votre émission Durabilité, dans la durabilité de la confiance renouvelée, cette notion de durabilité qui nous intéresse. La durabilité également aujourd'hui au cœur de l'écosystème et également de ce caractère pérenne que nous allons essayer de développer. Quel est aujourd'hui l'impact de la notion de développement durable sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan également de la biodiversité? Et pour en parler, nous sommes de retour avec une de nos invitées qui nous a rejoint tout au début de cette aventure. Il s'agit bien évidemment de Madame Samira Ben Ali, cofondatrice de Green Tech Touch et également présidente de Maram, par avant et aussi de revers, on dirait, conférencière experte dans l'industrie de la transition énergétique. Au plaisir de vous retrouver.
Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous.
Alors, sans plus tarder, qui parle de durabilité, parle de préservation de l'écosystème, mais c'est plutôt cette pérennité de la gestion durable de cet écosystème qui interroge. Comment évolue-t-elle aujourd'hui ?
Alors, pour en parler un petit peu plus en détail et pour segmenter, donc quand on parle de durabilité autour des écosystèmes, il faut pouvoir les distinguer. Mmh. Donc, on va faire un focus particulier sur ce qui concerne les ressources naturelles autour du Maroc et au Maroc, puisque c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir un peu des plans d'urgence, notamment celui de l'eau, mais on en parlera tout à l'heure. Alors, les écosystèmes, il faut savoir qu'au Maroc, on parle d'écosystèmes végétal, animal, mais aussi marin. Et ce qui fait que le Maroc a une formidable diversité par rapport aux autres pays méditerranéens. D'ailleurs, je crois que c'est l'un des pays qui se positionne au mieux par rapport à cette diversité. Et ces écosystèmes, il faut les préserver de manière à ce qu'on parle de durabilité par la suite. Comment les préserver? Il faut essayer de trouver une synergie entre ces différents écosystèmes. Et l'idée, c'est de pouvoir les préserver de manière à pouvoir suivre aussi leur évolution. Lorsqu'on peut préserver ces écosystèmes, il faut d'abord les quantifier, savoir ce qu'on fait, où est-ce qu'ils sont placés. Donc, au niveau des quantités, on est sur des quantités assez importantes, comme par exemple, ce qui concerne les espèces végétales, on est à peu près à 1700 espèces végétales, on est à 7000 espèces marines et on est à peu près à des milliers d'espèces en termes d'espèces animales. Donc, aujourd'hui, on est dans un pays qui est en pleine urbanisation, en plein changement et qui s'adapte aussi par rapport au contexte climatique et aussi au contexte de la mondialisation. Donc, comment on arrive à préserver tout ça? C'est la première question. Eh bien, il y a différents plans qui sont mis en place aujourd'hui au Maroc par rapport à cela, mais on a un gros problème, c'est qu'on n'arrive pas encore à connecter les expertises, faire des interactions entre expertises, ce qui fait qu'en fait, quand on produit une avancée, on risque d'impacter un autre problème dans un autre écosystème. Donc ça, on pourra en parler plus en détail par la suite. Mmh.
Donc, dans cette optique, toujours dans ce rapport durabilité et société, aussi environnement, on parle d'économie circulaire. Pouvez-vous nous en dire plus?
Eh bien, justement, ça, c'est la suite de la première question. Il y a vraiment une liaison. Donc, quand on parle d'économie circulaire, c'est qu'on prend toute la chaîne d'une valeur d'un écosystème. Si on parle de l'écosystème qui est relatif à l'eau, on va impacter tout ce qui va être l'écosystème marin, l'écosystème qui va être sur terre, c'est-à-dire agriculture, animal, végétal. Aujourd'hui, le Maroc a décidé de mettre en place, un peu comme un certain nombre de pays à l'international, des systèmes d'urgence qui est celui de la désalinisation. Mmh. On va prendre cet exemple-là concret. Le système de la désalinisation va permettre de résoudre un problème d'urgence qui est le stress hydrique aujourd'hui. Et donc, on va mettre en place un certain nombre de dispositifs sur toute la chaîne, aussi bien industrielle, Le plus gros consommateur d'eau aujourd'hui, c'est l'agro-industrie, l'agriculture. Donc c'est là où on va intervenir, pour pouvoir prendre en main l'aspect de cette économie circulaire. Donc ça, c'est une première chaîne. La chaîne en amont, c'est l'apport d'eau. La partie qui vient par après, c'est justement l'agriculture. Et puis derrière, ça va être toute la partie consommation domestique et le recyclage. Donc aujourd'hui, au Maroc, on a la chance d'avoir des organisations, des parties prenantes publiques et privées qui interviennent sur chaque partie. Donc la première partie urgente, c'était les systèmes de désalinisation, dont une a été inaugurée par notre prince Moulay Hassan il n'y a pas très longtemps. Une qui est déjà mise en place par l'OCP. Et puis les systèmes qui vont être mis à disposition pour pouvoir irriguer l'agriculture et l'agro-industrie. Sauf que dans l'agro-industrie, il va falloir aussi mettre des dispositifs sur les équipements existants. Là, on parle aussi d'économie circulaire et la façon dont on utilise intelligemment l'eau sur ces deux parties. Enfin, un point très important qui va être ensuite la transition vers la question 3, c'est quel est l'impact de ce nouveau dispositif sur le reste des écosystèmes, notamment par exemple celui de l'écosystème marin où on a une formidable diversité, je le rappelle, plus de 7 000 espèces animales. Eh bien, il va être plutôt négatif si on ne pense pas dès aujourd'hui un dispositif, un plan d'études par rapport à cela.
Et voilà, donc comme on le dit dans la corrélation et aussi dans la suite logique de cet argumentaire, donc vous nous amenez à parler donc de cette situation qui, face aux phénomènes naturels et à la dégradation de l'environnement, comment peut se faire cette gestion durable des ressources?
Eh bien justement, prenons cet exemple concret, je pense que ça va répondre à chaque question. Comment fait-on quand on est face à une pénurie d'eau, à un stress hydrique urgent, qu'on est obligé de répondre à un besoin majeur du pays qui représente 25% du PIB, c'est-à-dire l'agriculture, l'agro-industrie, tout en préservant les autres écosystèmes qui sont liés finalement. Eh bien, en fait, l'idée, c'est de pouvoir surveiller l'impact sur ces autres écosystèmes, en particulier le marin, puisque quand on désalinise l'eau, qu'est-ce qui se passe? On va utiliser des systèmes qu'on appelle l'osmose inverse. Entre parenthèses, donc nous, en tant qu'experts, on connaît très bien ce domaine-là depuis 2016. C'est un domaine qu'on connaît particulièrement et il y aura d'ailleurs prochainement des sessions par rapport à la gestion de l'eau et des rejets. Donc je reviens sur la question. Donc la désalinisation, on utilise l'osmose inverse. Les membranes, entre parenthèses, ça coûte très cher si on ne prend pas soin des membranes, s'il n'y a pas un véritable plan de maintenance par rapport à ça. Mais surtout, ce qu'on enlève de l'eau de mer, ça sera bien évidemment les sels, mais pas que. On enlève également les métaux lourds, on enlève un certain nombre de choses qu'on trouve dans l'eau de mer, notamment aussi les plastiques. Qu'est-ce qu'on fait? On concentre tout cela et on rejette à la mer. Donc, il y a certains pays, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont mis en place un aménagement de manière à ce que autour, on n'ait pas grand-chose pour ne pas impacter ce qu'il y a autour de nous, que ce soit au niveau marin ou terrestre. De notre côté, le risque qu'on a, c'est que quand on agit dans l'urgence, on peut facilement dégrader et très rapidement bah justement l'écosystème marin. Parce que si on apporte plus de sel, plus d'eau chaude au niveau de la zone là où on doit rejeter, on aura automatiquement une augmentation de température d'eau, automatiquement un impact direct sur l'écosystème marin, ce qui va engendrer un autre problème. Voilà pourquoi on a un certain nombre d'acteurs locaux qui sont disponibles, des organismes qui sont disponibles pour pouvoir dès aujourd'hui, en même temps, pouvoir faire cette étude, Green Tech Touch est tout à fait disponible pour le faire, on a aussi des organismes pour le faire, de manière à réduire cet impact marin qui est à proximité et qui est aussi une source principale de richesse du pays, c'est-à-dire la pêche, etc.
Et aujourd'hui, donc, la donne semble s'orienter vers les investissements verts, comme vous venez de le souligner. Est-ce donc à dire que la nouvelle solution, bien évidemment, vers la durabilité pérenne est cette énergie et cet investissement vert?
Oui, tout à fait. Donc, les investissements verts, on les retrouve partout. On les retrouve, comme je le disais tout à l'heure, à l'échelle terrestre. Donc, ce qui va être bien évidemment, par exemple, la production d'énergie solaire, d'énergie éolienne, ou bien évidemment l'hydrogène vert, qui est un vecteur qui est très important. On a l'offre hydrogène vert Maroc qui est justement en cours. Mais on a la possibilité aussi de pouvoir générer des investissements verts sur l'eau, qui a beaucoup moins d'impact écologique que certaines des technologies précitées et qui permettent aussi de manière très compétitive de pouvoir obtenir des chiffres vraiment très intéressants pour rendre le pays compétitif par rapport à ses énergies. La diversité des solutions, des investissements verts, va faire que l'on soit compétitif. On ne peut pas se baser sur une ou deux technologies, puisqu'on va se rendre compte qu'à moyen et long terme, eh bien, ça va nécessiter plus de déchets, ça va nécessiter beaucoup plus d'investissements. Ajouter, parce qu'il y a des calculs qui ont été un petit peu faits trop vite, des investissements supplémentaires. Généralement, on est sur 20-30%. C'est pour ça qu'il est nécessaire, absolument primordial, de pouvoir faire la diversification des investissements verts pour pouvoir partir sur une durabilité pérenne. S'il y a une solution qui pose problème sur le long terme parce qu'elle est à proximité d'une solution d'urgence d'eau, etc., et que ça a un impact catastrophique au niveau écologique, on a toujours la possibilité de rebondir sur une autre solution verte et de réduire la production sur la première. Donc c'est tout un exercice d'équilibre à mettre en place, et cela, ça n'est possible qu'à travers les implications des différentes organisations publiques et privées qui doivent s'asseoir ensemble et pouvoir justement mettre en place cet équilibre.
Justement, donc depuis tout à l'heure, on parle d'écosystèmes. Je pense que la question qu'on doit se poser aussi, c'est comment ces écosystèmes peuvent apporter une réelle valeur ajoutée durable, en donnant également quelques exemples.
Alors, l'écosystème, justement, sociétal, là, ça va être vraiment un aspect sociétal. Et c'est là, je pense, ensemble, qu'on a fait le tour entre le marin, le végétal, l'industrie, les solutions. Mais qui a la main ? C'est l'être humain, donc, c'est-à-dire la part sociétale. Dans la part sociétale, on a les institutions publiques, les institutions privées, on a aussi les organisations, comme par exemple les associations. Nous avons, nous, l'association MARAM, qui est une association de durabilité pour les industries, mais aussi tout ce qui entoure les industries. Et qu'est-ce qu'on fait quand on réunit tous ces acteurs ? L'idée, c'est de faire cela à travers des discussions ciblées pour répondre à des problématiques qui sont ciblées. Donc aujourd'hui, les problématiques ciblées d'urgence, c'est tout ce qui concerne le changement climatique. Le changement climatique, ça n'est pas que les émissions de gaz à effet de serre, parce que tout le monde fait un focus là-dessus. Non, c'est également tout ce qui va être l'augmentation de température de l'eau à cause des nouvelles technologies qu'on met en place. Ça va être tout ce qui concerne les rejets, déchets, plastiques, etc., qui ne font qu'augmenter puisque l'urbanisation est exponentiellement en train d'agrandir. Donc, c'est différents points de changement climatique, puisque la finalité, c'est ça, c'est de dire comment on fait pour régler ces problèmes. Et tout le monde doit être impliqué. Les différentes parties sociétales, c'est aussi la formidable, opportunité qu'on a à travers la diaspora. La diaspora, alors je ne veux pas parler des MRE, je veux parler de diaspora. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on est sur une échelle africaine. Donc, on parle de diaspora. On parle de diaspora qui va venir du Sénégal, du Maroc, des pays voisins. On doit travailler ensemble, puisque l'impact aujourd'hui, c'est un impact de mondialisation. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir des experts qui sont à l'étranger pendant un certain nombre d'années et qui reviennent, qui ont envie de s'installer au Maroc. Entre parenthèses, c'est aussi notre cas. On est toujours à cheval entre les deux. On fait profiter notre réseau d'experts extérieurs vers l'intérieur et vice-versa pour générer des solutions marocaines, africaines, en s'inspirant de ce qui se passe à l'extérieur. On ne peut pas copier ce qui se passe d'un pays pour essayer de dupliquer dans le nôtre. Chaque pays est différent, chaque pays est singulier et doit avoir ses propres solutions. Voilà pourquoi il est nécessaire de s'inspirer de ce qui se passe à l'extérieur, de s'asseoir avec les différentes parties prenantes locales, toutes les parties prenantes, et ne pas marginaliser une ou deux, et de pouvoir vraiment jouer le jeu, pour pouvoir mettre en place des solutions adaptées, ciblées et locales. Voilà.
Des solutions adaptées, ciblées et locales, toujours dans le cadre de la durabilité, mais aussi de la compréhension de cette notion de développement durable. Aujourd'hui, nous étions avec Madame Samira Ben Ali, cofondatrice donc de Green Tech Touch et présidente de MARAM, par ailleurs et aussi conférencière experte dans l'industrie et la transition énergétique. Avec elle, nous avons abordé cette question d'écosystème pérenne, mais aussi des solutions durables à évoquer, bien évidemment, et à mettre en place en fonction des réalités sociales, mais aussi politiques et économiques. Merci encore à vous, Madame Ben Ali.
Un grand merci. À très bientôt.
Également, à très bientôt également à vous, chers amis, pour la durabilité de votre confiance renouvelée. Au plaisir.